Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 49 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. Vous ne savez pas de quoi on y parle? Eh bien c'est dans le titre d'épisodes, de séries, de saisons, de tout ce qui touche au feuilleton, comme disait ma grand-mère, en 30 minutes chrono, ou presque, et toujours dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama au micro et avec moi cette semaine Marion Litté de Combini. Hello Marion.
Salut Pierre.
Corentin Durand de Numérama. Salut Corentin.
Salut.
Et Sylvain Trinel d'ING. Bonjour Sylvain.
Salut.
Trois pure players pour parler d'une plateforme, on est raccord puisqu'il sera question cette semaine de Netflix, encore elle, et de son impact sur les séries européennes. Marseille, cette chère Marseille, vient de faire son retour aux côtés de l'allemande Dark, de l'anglaise The Crown, de l'italienne Subura, ou encore de l'espagnol Les Demoiselles du Téléphone. Je vais pas tenter de la faire en espagnol, celle-là. Que valent ces productions européennes? Où Netflix place-t-elle ses billes dans les domaines des coproductions et des acquisitions aussi de Londres à Rome? On en parle tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Marseille, ma belle Marseille. Elle m'a redonné la force de revenir d'entre les morts.
Ce qui arrive à Barès, c'est inespéré.
Son groupe acceptera jamais de faire alliance avec nous.
Lui, il fera jamais le jeu de l'extrême droite.
J'appelle Jeanne Coste.
Julia, incroyable.
Je pourrais peut-être aller voir un verre.
L'extrême droite, c'est déjà limite. Tu sous-estimes le pouvoir d'amusance de ces gens-là.
Tu te fais bouffer. Ces gens sont en train de te retourner, tu ne vois même pas.
Chers amis de l'Association Française des Critiques de Séries, faisons d'abord notre job et critiquons avant de tenter d'analyser plus globalement la stratégie de Netflix en Europe. Et commençons donc par Marseille, le punching ball de la critique il y a 2 ans et qui vient de faire son retour. Faut-il continuer de tirer sur l'ambulance, chers amis?
Oh, vaste débat. Oui, alors faut admettre qu'effectivement la saison 1 était catastrophique. Je dois admettre quand même que la saison 2, le début de saison 2 notamment, fait un peu table rase du passé et a tendance à faire ce que la série devait être au départ, c'est-à-dire être un bon thriller politique, j'ose le mot effectivement. Mais c'est vrai que malheureusement arrivé enfin au milieu de saison 2 et à la fin, là ça repart dans ses travers et c'est assez douloureux.
Ouais, parce que ça se complique. Alors disons, moi j'en ai vu la moitié, c'est pire après.
Ah oui.
OK, Marion. C'est pas mal ça, tu me diras, hein, ça laisse de la place pour les photos, ouais.
La première saison était grotesque, la deuxième saison l'est un poil moins, mais en fait en voulant être un peu sérieux, un peu sérieuse, elle n'est pas encore vraie, elle est moitié chiante tout en n'étant pas bonne en fait cette deuxième saison. Donc au final au moins la première, elle était tellement what the fuck qu'on pouvait en rire et avoir des dialogues complètement lunaires qui finissaient sur un Tumblr. La saison 2 c'est juste un mauvais soap thriller, moi je suis hermétique, hein, vraiment.
Corentin.
Non, mais c'est toujours pas un thriller politique, à mon sens. C'est toujours, alors effectivement, c'est simplifié, c'est plus sobre, mais c'est toujours très mal interprété et pas du tout intéressant. Ça prend des thèmes en les essentialisant jusqu'à ce qu'ils deviennent très pauvres. C'est moins caricatural, mais c'est toujours très très mauvais quand même.
Donc le truc, Sylvain, c'est que tu vas te lever et quitter cette table immédiatement.
C'est ça, exactement.
Puisque tu n'as pas vu la même série que nous, clairement. Non, moi je suis complètement d'accord avec Marion. La première saison, enfin, avec beaucoup de cynisme, on peut dire que la première saison, c'était marrant, quoi. Sauf qu'en vérité, quand on l'a découverte, enfin, moi j'ai rigolé, mais j'ai rigolé triste, quoi. Parce qu'on attendait beaucoup de choses de cette série-là. On va discuter dans cette émission de l'impact que peut avoir Netflix. On se disait, waouh, là, ça y est, la première série française de Netflix, on y croyait à mort, il va se passer quelque chose. Et puis on était sidérés face à la nullité de la chose. Et là, moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en gros, ils ont fait le ménage dans le local à poubelle. Donc ça reste le local à poubelle quand même. Ça reste
oui, ça tire à balles réelles. Hein.
Oui. Bah, écoute, hein, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a effectivement beaucoup moins de répliques grotesques. Il y en a une ou deux. Il y a un moment Lucas Barrès, il y a son une de ses partenaires qui lui dit méfie-toi de cette fille, elle pourrait bien te baiser. Lui dit bah en gros ça me changera de mes habitudes. Là c'est le genre de réplique qu'on attend de Marseille. Ça vole très très haut. Et puis sinon bah en fait ils ont presque peur. On a l'impression sur cette saison 2 qu'ils s'appliquent, qu'ils essaient de faire en sorte que ça soit moins pire. Mais le problème, comme le disait très bien Marion, c'est qu'au bout du compte, est-ce que les gens s'étaient pas attachés à Marseille parce que justement c'était pire? C'est la question, on verra hein, s'il y a une saison 3, c'est que bah en fait non, pas du tout. Les Russes et les Brésiliens hein, qu'on nous avait dit être responsables du renouvellement, ou pardon, grâce à qui le renouvellement avait pu avoir lieu, on peut peut-être continuer à regarder. Enfin en tout cas, à suivre, mais le cas Marseille ne fera toujours pas évoluer la fiction française, ça c'est sûr. Alors, ceci étant dit, la France à Marseille, donc la Grande-Bretagne à The Crown et l'Allemagne Dark, à mon sens, les deux belles réussites de Netflix en Europe. Est-ce que vous partagez mon point de vue? Donc vous avez compris, chers auditeurs, on fait le tour de l'Europe hein, et on va monter en Allemagne là et en Angleterre. Les deux vraies réussites européennes sans doute.
Oui, d'un point de vue critique, c'est évident. Dark a été un peu une surprise. Elle nous a tous prises de court. Elle est extrêmement addictive. On part sur un drama qui, a priori, fait chier tout le monde avec un gamin qui disparaît. Et en fait,
ça... Il manque que le berger allemand et on est dans une vraie série allemande, finalement.
Mais en fait, pas du tout. Et du coup, on est dans un truc hyper... qui devient complètement ésotérique avec des timelines, avec un truc à mi-chemin entre Lost et un drama anglais. Donc, vraiment, moi, Dark, j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment une belle surprise. The Crown, c'est plus classique. Peut-être parce qu'on connaît mieux aussi les Anglais que les Allemands. Moi, je t'avoue que d'autres séries allemandes comme ça, là tout de suite à citer, j'en ai pas forcément. Alors qu'au niveau des séries anglaises, on sait que c'est des spécialistes de la série d'époque. Et du coup, ils se sont entourés des meilleurs pour faire The Crown. Et le résultat est à l'image de l'équipe créative.
Ouais, en gros, c'est une série en costume anglaise avec un budget de grosse production américaine. Donc évidemment, on voit le résultat, messieurs. Corentin.
Moi, je trouve que The Crown est quand même mieux que... Enfin, c'est quand même une très, très bonne série de reconstitution historique. En termes d'écriture, des sujets abordés, la saison 2 était encore un ton au-dessus. The Crown a ce côté un peu des débuts de Netflix, quand ils prenaient un sujet qui avait été vu et revu et qu'ils en faisaient finalement le meilleur. Dark, c'est vrai que c'est un peu plus étrange, parce que, bien qu'étant allemande, elle reprend finalement des choses qui sont assez américaines. On pense forcément à Stranger Things, à Lost. Et il y a quelque chose de... C'est une série d'auteurs faite par des passionnés de séries de ce type-là qui en font une espèce de... qui, on va dire à l'échelle du monde, en font quelque chose d'intéressant et de... Peut-être pas de meilleur que Stranger Things, c'est sûr, mais meilleur, c'est vrai que la production allemande, ça c'est incontestable, puisque
même
Dark
si la production
n'existe pas en Allemagne de manière générale.
La production allemande, quand même, qualitativement, a le pied sur l'accélérateur aujourd'hui. Plus que la française. Enfin, on voit de plus en plus de séries allemandes intéressantes qui arrivent et pas seulement des productions Netflix. Sylvain, ton avis par rapport à cette série-là?
The Crown, effectivement, j'avais déjà pu clamer mon amour pour cette série dans un
précédent
podcast.
On en a déjà parlé, effectivement.
Pour Dark, je pense que elle joue vraiment sur le fait qu'on s'attendait pas à avoir une série allemande de cet ordre-là. Les gens, notamment en France, ils sont encore bloqués sur Derrick quand ils parlent des séries allemandes, et avec Dark, même si l'histoire est bien, il y a un vrai côté fantastique qui est plutôt bien amené, je serais moins convaincu par rapport à la seconde saison, notamment sur les pistes amenées par la fin de la première, et parce que justement, j'ai peur que ça soit la série d'une seule saison. J'ai peur que ça aille pas plus loin.
C'est vrai qu'on n'en dira pas plus, ça serait spoiler. C'est dommage, il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que la chute de la saison, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. C'est ce qu'il y a sans doute de plus prévisible d'ailleurs. Et on sait pas trop comment ils vont s'en dépatouiller de cette histoire. Allez, parlons des deux autres productions maison européennes de Netflix, qui sont l'espagnole, allez, si je vais la faire, Las Chicas del Cable, et l'italienne Subura. On en parle, on en pense quoi? Elles sont plus dispensables, elles sont peut-être, elles ont pas trop fait de bruit en France pour le coup. Ces deux-là, on les a presque oubliées.
Elles sont très, par rapport à Dark, justement, oui, c'était intéressant ce que tu disais, parce que on voit pas trop le côté régional, enfin le côté c'est l'Allemagne. Cette série, elle aurait pu être faite en fait dans n'importe quel pays, alors que pour le coup Las Chicas del Cable et Subura, c'est vraiment deux séries qui sont représentatives, enfin ou en tout cas qui essaient de l'être, de l'Espagne d'un côté et l'Italie de l'autre. C'est vrai qu'elles ont fait moins de bruit. Moi, j'ai eu un mini coup de cœur pour Las Chicas del Cable.
Au secours.
Pour moi,
c'est un gros soap comme les Espagnols. espagnol, c'est Undo Stress, enfin j'exagère.
Oh non, alors là, j'exagère.
C'est la série dans l'hôtel, là, dont le nom m'échappe.
Oui, Grand Hôtel.
Voilà, Grand Hôtel. Ouais. C'est, waouh, c'est oui, pas mais, léger, hein.
Certes, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas léger. Mais c'est un soap féministe, et moi, je crois que j'avais jamais vu ça. La série, elle commence par dire, bon, on est en 1920, une époque où les femmes n'étaient pas libres.
C'est balourd. Moi, je suis d'accord que le propos est sympa, mais il y a tellement de bonnes séries qui ont ce propos-là aujourd'hui qu'on va pas s'encombrer d'un soap pareil.
Enfin, ouais, mais là, c'est peut-être aussi parce que tu prends pas en compte qu'en Espagne, ils adorent les soaps avec des gros sabots, quoi.
Effectivement.
Et du coup, c'est très représentatif de la culture sérielle en Espagne.
Donc, Corentin, Sylvain, Subura, ça va être à peu près la même chose, mais avec les Italiens, sauf que eux, ils aiment le pognon, la prostitution et la corruption, quoi, en gros.
Ça pourrait être Marseille aussi.
Marseille, ça pourrait être. Ben, c'est pas très, très loin, l'Italie.
C'est une bonne série italienne, en fait.
Moi, j'aime bien Subura. Alors, c'est vrai que les deux, là, Las Chicas et Subura, sont particulièrement représentatifs des industries locales. Subura est très proche de Gomorra, tout en ayant quand même quelques subtiles différences. Mais Subura est quand même une bonne série qui, sans révolutionner la scène italienne en matière de série, est quand même intéressante, a quelque chose à dire à la fois sur Rome, à la fois sur son sujet, sur ses personnages qui mériteraient peut-être d'être un peu plus intéressants. Mais...
Pour dire rapidement, c'est quand on compare à Gomorra, la spécificité de Subura, c'est qu'en fait, ça représente l'ensemble du spectre de la corruption et de la mafia. Ça va des hommes politiques à la religion, aux petites frappes, finalement. On fait le tour de la boucle. Et je te laisse reprendre après, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est certains personnages, mais pas tous. C'est très choral, mais moi, je trouve le côté politique, le côté religion peut-être plus original, là où les petites frappes, elles sont bien meilleures dans Gomorra, et c'est là que c'est difficile.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas l'intérêt psychologique qu'a Gomorra en matière de personnages, mais moi, je trouve que le meilleur personnage de Subura, c'est Rome, qui est un personnage en tant que tel, avec effectivement cette chorale qui est composée de trois mondes qui sont rassemblés par la réalisation. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne série italienne, une très bonne, je sais pas, parce qu'on a vu d'autres choses très intéressantes en Italie, mais Subura est quand même vraiment au-dessus de Las Chicas de Marseille, pour ne citer qu'elle.
Alors, on a fait le tour d'Europe rapidement, des créations originales Netflix, et un constat, elle semble quand même s'attaquer au public, à ce que les gens aiment dans les pays. On vient de glisser là pour les Italiens et les Espagnols. En gros, les Anglais ont droit à un drame en costume de qualité, les Espagnols un soap, les Italiens de la mafia, les Français un navet. Bref, ça semble s'adresser au public locaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de cynisme de la part de Netflix d'aller chercher ce qui va plaire? Ou tout simplement, ils sont pas là pour faire de l'humanitaire, ils sont là pour trouver le public, et du coup, ils vont faire ce qui est censé plaire au public locaux.
Ils sont dans une logique de rentabilité quand même. Malgré tout, il faut quand même lorsqu'ils s'installent dans un pays, il faut qu'ils prouvent que leur série, enfin en tout cas leur catalogue, va aller au-delà des simples séries US comme on peut avoir en France. Donc ils vont essayer de s'adapter au mieux au public dans lequel ils s'installent, donc pour engranger les abonnements. Je pense que s'ils font pas ça, notamment pour effectivement les demoiselles du téléphone, ça fonctionnerait pas aussi bien. Si Marseille n'avait pas été lancée, peut-être que la presse n'aurait pas autant parlé de Netflix, et du coup les gens se seraient pas intéressés.
Donc vous partagez ce point de vue, ça serait finalement une façon de prendre contact, de rentrer en contact avec le public, et donc on peut espérer que quoi, la deuxième production originale Netflix espagnole et la deuxième italienne seront peut-être plus risquées, plus loin de ce que le public est censé attendre.
Oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, on en reparlera plus tard, mais c'est ce qui va se passer avec la France. Au départ, ils prennent les grands noms de séries dans chaque pays, ou ce qui se fait et qui fonctionne, parce que Netflix, ils fonctionnent quand même avec leurs algorithmes, et donc ils savent ce qui va plaire à l'audience locale. Ils font plein d'études avant de se lancer, je pense, dans la production d'une série. Donc, c'est facile de faire ça avec l'Angleterre. Bon, avec l'Allemagne, coup de peau, ils ont fait un truc un peu international. C'est facile de le faire avec l'Italie, l'Espagne. La France, en revanche, c'est le bordel, parce que, de toute façon, les séries françaises, on va dire que les séries françaises grand public, il n'y en a pas, comme la BBC peut en avoir en Angleterre. Donc ils sont arrivés, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu en prenant des noms comme Pascal Breton, qui était connu pour avoir produit Sous le soleil, et ça a fait Marseille, quoi. Bon, voilà.
Et puis ils ont pris aussi des acteurs très populaires, etc.
Oui.
Voilà, il y a aussi cette volonté-là. Mais du coup, est-ce que tout à l'heure, on a dit tout le bien qu'on pensait de certaines de ces productions, est-ce que du coup on peut dire que, même quand ils font The Crown, qui est une excellente série, on est tous d'accord là-dessus, ils font ce que les publics connaissent déjà. Est-ce que la fiction est déjà... Est-ce que, du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, Netflix fait avancer la fiction européenne s'ils font que, au mieux, de bonnes versions de ce qu'on connaissait déjà? en Sylvain.
En tout cas, pour l'instant, ils l'ont pas prouvé. C'est sûr. Enfin, de mon point de vue, il y a particulièrement effectivement avec The Crown, il manque encore ce petit quelque chose qui va faire que je vais me lancer dans une série européenne de Netflix en me disant je vais regarder autre chose. Là, moi, j'ai pas retrouvé ce que j'avais apprécié dans les séries originales de Canal+, par exemple. C'était pas, voilà, il manque encore ça dans les séries Netflix européennes.
On pourrait dire que Dark a peut-être fait ça, sauf que quand même, les Allemands sont des premiers publics du Nordique Noir. Ça a été parmi les premières chaînes, les Allemandes, à diffuser les Nordiques Noirs, etc. Et que Dark, il y a aussi un côté Nordique Noir. Donc je pense pas que Dark soit complètement novatrice, pour le public allemand, ceci étant dit.
Non, c'est sûr, mais aucune série aujourd'hui n'est complètement novatrice. Dark, du coup, elle twiste quand même pas mal le côté nordique noir en apportant du fantastique. Après, je pense que si au sein des pays, c'est pas super original, moi, ce que j'adore avec Netflix, c'est que justement, en tant qu'Européen, on a maintenant accès à des séries qui sont locales. Et ça, du coup, c'est cool. En tant que Français, moi, j'avais jamais vu... Enfin, il y a des séries allemandes, espagnoles, italiennes, on n'y avait pas accès. Donc ça, c'est le côté
mondial. Ou au fin fond du câble, ou sur TVA.
Voilà,
c'est
ultra difficile pour les téléspectateurs français de pouvoir regarder de ce qui se fait dans les autres pays qui sont pourtant pas loin de chez nous. Donc ça, c'est un plus.
C'est vrai. Aussi, d'un point de vue des acquisitions, mais ça, on va en parler dans la suite de cette émission.
I've been queen barely 10 years. And in that time, I've had 3 prime ministers. Not one has lasted the course.
I understand the prime minister's resignation.
It's not just the prime minister.
And your mother, and your sister, and your country. The whole relentlessness of it all. The fact it never stops, not for a minute. But is it not possible that among all those problems, there are some of us who are there for you no matter what?
If only.
Rappelons quand même que après cette petite extrait de The Crown, de la bande annonce de The Crown, rappelons que c'est avec une coproduction américano-norvégienne, Lillehammer, que Netflix a fait ses débuts sériels. La coproduction, c'est l'autre pilier de l'implantation de la plateforme en Europe. The End of the Fucking World, par exemple, en Angleterre, a fait récemment un sacré carton. En fait, le truc, c'est que c'est assez difficile, on va pas vous cacher, même pour préparer cette émission, on s'est demandé, mais c'est quoi que déjà est vraiment original Netflix? Ce logo-là, Netflix, qui apparaît au début, c'est quand même bizarre, on sait pas trop. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Chers amis, comment on fait la différence si on est un abonné à Netflix? Quand on voit une série européenne, techniquement, il faut aller sur la fiche Wikipédia ou sur IMDb, quoi.
Oui, on peut pas la faire, la différence. Netflix joue là-dessus depuis quasiment le début. C'est-à-dire que maintenant, ça devient même... Ils mettent série originale sur tout, quasiment tout. Là où ils ont une exclusivité, par exemple, d'une série où ils sont les seuls à la diffuser dans le pays, ils vont mettre série originale. Si c'est une coprod, ils vont mettre série originale. Si c'est une production qu'ils ont achetée très tôt, comme End of the Fucking World, où ils ont eu un droit de regard sur les scripts, mais ils sont pas techniquement coproducteurs, ils vont mettre série originale. Donc, en fait, c'est une stratégie de communication qui a extrêmement bien marché, au final, si on veut être cynique, parce que la plupart des gens, des téléspectateurs qui regardent Netflix... Qui sont pas ultra aguerris et qui s'intéressent pas à ce sujet qui est quand même un peu pointu pour un fan de séries, ils pensent que Netflix détient toutes les séries du monde en France.
Oui, en tout cas que le catalogue est extrêmement large. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème en tant que critique peut-être, parce que ça nous permet, nous, quand on sait qu'une série est vraiment une création maison, de faire la distinction sur les lignes éditoriales, etc. Après, est-ce que ça a une importance pour le spectateur, messieurs?
Rien que pour indication, Amazon a quelque chose d'assez similaire avec ses séries originales, mais ils ont, c'est vrai, cette honnêteté d'avoir des Amazon Originals et des Amazon exclusives, genre The Bold Type, qui était diffusé récemment sur Amazon en France, est exclusif à Amazon.
Ah, c'est pas mal, ça, la différence entre original et exclusif. C'est vrai que, oui, du coup, une série comme Fargo est présentée comme une série Netflix en France, alors qu'elle est sur FX aux États-Unis. Alors, c'est plus difficile de tricher, entre guillemets, avec les séries américaines, parce que le public est déjà un peu plus renseigné, enfin, en tout cas, le public sériephile. En France, il y a eu des préachats avec Arte. Canal+ prépare une série The Spy en collaboration avec Netflix. Le but, c'est de laisser la diffusion locale à la chaîne partenaire, mais de prendre l'international. En gros, ça a très bien marché. Hein. Récemment, on a beaucoup parlé de La Casa del Papel, série espagnole, qui est pour le coup pas une série Netflix du tout. C'est un rachat. Donc voilà, c'est pour donner d'autres exemples. Alors, je vais faire une intervention un peu plus longue. Netflix a annoncé l'an passé vouloir augmenter de 40% ses investissements et achats de films et séries français. Il faut dire que Netflix a des obligations. La législation européenne va la contraindre à s'adapter aux droits des pays où elle est présente, si j'ai bien compris. Et les États européens veulent imposer à toutes les plateformes de vidéos, donc ça prend aussi en compte Amazon, de vidéos à la demande, pardon, que leur catalogue de films et séries contiennent au minimum 30% d'œuvres européennes. Bref, pour simplifier les choses, c'est aussi une nécessité légale, cette augmentation des séries européennes de Netflix. C'est pas simplement aussi pour faire plaisir à la business locaux, c'est aussi parce que Netflix doit faire des séries européennes, si j'ai bien compris. Corentin.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent un débat que Netflix a dans les médias pour essayer d'expliquer sa démarche en disant que de toute manière, dans tous les marchés où ils s'implantent, ils font des séries locales et donc ils n'ont pas besoin de la contrainte, finalement, de la contrainte européenne. Aujourd'hui, ils vont devoir y passer. Après, il reste quand même un suspense. Aujourd'hui, ils ne sont quand même pas à ce chiffre. Et que ce soit Amazon ou Netflix, j'ai pas la sensation, même ils le disent, hein, qu'ils ont pas prévu de faire non plus 5 séries par an en France, ce qui va quand même contraindre et, à mon avis, changer l'agenda s'il s'avère vraiment que c'est vers ce genre de législation qui se dirige et qui ne trouve pas de dérogation à cette contrainte. Là.
Ça sous-entend aussi de diffuser des séries françaises. Alors, quant aux futures séries Netflix, on va en parler. Hein, il y a quelques projets qui commencent à être connus en Europe et en France en particulier. Mais ça sous-entend aussi qu'il y a de plus en plus de séries françaises qui n'ont strictement rien à voir avec Netflix, qui sont sur Netflix, qui sont visibles. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça aussi, ça fait partie des contraintes de diffusion, si j'ose dire. Aujourd'hui, est-ce que Netflix peut être utilisé, Marion, je crois, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, que grâce à Netflix, on peut voir des séries de pays européens qu'on n'avait jamais vues avant. Est-ce qu'on peut aussi voir des séries françaises qu'on ne serait peut-être pas allé regarder sur leur chaîne?
Bah oui, complètement en fait. Enfin, en tout cas, je pense surtout à la population des jeunes fans de séries qui sont pas du tout à regarder la télévision et qui vont découvrir par exemple que 10% est sur Netflix. Donc ils vont pouvoir regarder comme ça des séries auxquelles ils auraient pas prêté attention en fait en temps normal. Donc le fait d'avoir une diffusion de séries françaises sur la plateforme Netflix, ça ouvre à un public que la télé n'attire plus, c'est-à-dire les jeunes qui ont entre, je sais pas, 15-30 ans.
Amazon aussi va faire ce mouvement-là. Ils ont dit qu'ils allaient mettre de plus en plus de... Alors après, il y a aussi, encore une fois, des obligations. Donc il va bien falloir qu'ils en mettent plus.
Pour Amazon, c'est même, je trouve, aujourd'hui davantage le cas. C'était leur mouvement finalement de fin d'année dernière où ils ont annoncé une francisation du catalogue avec beaucoup de films français, mais surtout énormément de séries françaises, notamment chez France Télé, où ils ont aujourd'hui, je pense qu'en termes de plateforme en ligne, ils ont le plus gros catalogue de séries qu'on n'a pas du tout envie de voir, mais qui sont là, qui vont de Fais pas ci, fais pas ça.
C'est bien Fais pas ci, fais pas ça.
Oui, non, mais pour la meilleure.
Vas-y, donne-moi des pires.
J'ai pas en tête. Et en général, c'est les thrillers de l'été de TF1 et France 2. Ouais. Qu'on a tous oublié, c'est pas plus mal.
Après, on oublie aussi un peu que les producteurs français se pressent un peu aux portes d'Amazon ou même plutôt de Netflix, du coup, parce qu'ils savent que derrière, c'est aussi un point d'entrée vers l'international. L'Amante, par exemple, de la série de TF1, qui est arrivée très rapidement.
Pardon, avec tout le respect que j'ai pour Stephen King, mais là, c'est pas possible. Stephen, faut arrêter de regarder la télé pour dire des choses pareilles, c'est pas possible. Je sais qu'il y a dans la salle quelqu'un qui va m'assassiner, mais.
Effectivement,
voilà. Mais faut pas regarder l'Amante,
au-delà
c'est pas
de ces
bien.
Goûts-là, ça arrive quand même, ça a du succès et. Marion parlait tout à l'heure du succès de Marseille au Brésil et en Russie, qui a permis le renouvellement de la série. Merci, grand bien leur fesse. Mais donc, on oublie ça. Et finalement, la technique de Netflix, ça va être, vous râlez un peu par rapport à notre arrivée sur le marché, mais en même temps, vous avez besoin de nous pour faire venir ces séries à l'international.
Et oui, c'est vrai que ça marche dans tous les sens. Les prochaines... Moi, c'est quand même étonnant. On m'avait jamais vendu en tant que journaliste. Tiens, on a une nouvelle série brésilienne. Regarde-la, dis-nous ce que t'en penses. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, les séries brésiliennes, si elles arrivaient parfois via HBO Brésil, les séries d'HBO Brésil arrivaient sur le câble français, donc on a pu en voir quelques-unes. Parlons d'Amazon, puisqu'on parlait un petit peu. Elle muscle, elle aussi, son jeu, cette plateforme. Elle a lancé une série allemande, You Are Wanted. Je crois qu'on est quelques-uns à l'avoir vue ici. Qu'en pensez? Et finalement, est-ce que c'est un indicateur, peut-être, des ambitions européennes d'Amazon, Corentin?
Moi, je trouve que You Are Wanted, c'est...
De quoi ça cause, déjà, peut-être parce
alors,
que...
alors, c'est un thriller qui prend quand même beaucoup d'éléments autour de la modernité du numérique. Hein. On parle de hack et... c'est pas du tout Mr. Robot, hein, mais c'est quelqu'un qui va devoir combattre, finalement, une attaque qui va prendre des répercussions sur sa vie personnelle et qui se change en thriller parce qu'il y a une enquête derrière, etc. C'est assez proche, finalement, de la production allemande. Et en même temps, ça fait penser aussi à ces séries qu'on n'a pas regardées sur Amazon, de type Bosch. qui et Goliath qui n'ont pas intéressé grand monde, mais qui ont
qui sont pas
format,
mal du tout. Bosch et Goliath,
qui sont,
franchement,
qui
sont comme
pas
l'autre,
mal.
Mais
qui étonnamment n'intéresse personne.
Oui. Enfin, elles intéressent personne sauf les Golden Globes, non,
oui,
confiler un Golden Globe.
La naphtaline, ces séries, elles sont un peu vieilles quand même. Enfin, elles ont un côté un peu ultra classique. Ça aurait été bien il y a 5-7 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé hyper old school. Hein.
Bah, Amazon a à la fois sorti des séries 1000 fois plus modernes et osées que Netflix, et en même temps des choses comme ça un peu plus old school. Donc voilà, c'est un peu un équilibre. Enfin, en tout cas, You Are Wanted, moi, je trouve pas ça honteux du tout. C'est plutôt rythmé, plutôt bien foutu. Ça prend moins de risques que ça prend peu de risques finalement. C'est assez classique. Ça aurait pu être n'importe quel thriller américain de câble basique, comme on dit. Donc c'est-à-dire USA Network, ce genre de série-là, de chaîne-là aux États-Unis. Mais c'est plutôt bien foutu. Alors justement, Amazon a aussi travaillé un petit peu avec la France. On l'a oublié, mais il y a eu une collaboration sur The Collection qui est passée sur France 3, qui était une coproduction avec la BBC, je crois, en tout cas une grande chaîne anglaise. Je vais pas me risquer sur la BBC, mais une grande chaîne anglaise, une série dans le monde de la mode, dans la mode après la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment chiante à mourir et beaucoup trop. Ça se voulait complexe scénaristiquement, mais ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y a quelques semaines, une future série française, et celle-là, la première production originale française, ça s'appelle Dutch Leyland, et Marion, tu lèves les yeux au ciel, donc tu vas nous raconter de quoi ça parle.
Mais non. Non, mais c'est... Enfin, on a l'impression qu'Amazon...
Attention, on l'a pas vu, donc on peut pas dire que c'est horrible.
Mais non,
disons que
alors,
ça fait peur.
J'ai pas dit que c'est le pitch est horrible et me fait très peur. Dutch Leyland, donc c'est co-écrit...
Avec le titre déjà, tu vois.
Dutch Leyland, on commence par en parler du titre, non, bon. C'est co-écrit par deux scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis.
Ancien voilà. Des Guignols.
Voilà.
Je bon, contrebalance, t'as vu.
Contrebalance, oui, t'as raison. Mais en fait, du coup, bah, l'histoire, c'est, je sais plus, une entreprise allemande qui débarque chez les Français.
Dans un village en faillite.
Voilà, dans un village en faillite. Et du coup, on va avoir le petit choc des cultures entre, voilà, les Allemands, les Français. Et malheureusement, donc, c'est pas fait par Arte, qui pour le coup aurait peut-être une expertise, mais moi, j'ai assez peur de ce pitch. En plus, donc, côté casting, on est sur Marie-Anne Chazelle. Je me souviens
pas que.
Plus des autres. Ah si, il y a Sylvie Testu, on sait pas ce qu'elle fout là.
Bah, pourquoi
ouais,
pas.
Bah, il y a Géraldine Payas dans Marseille que j'adore en tant qu'actrice.
Mais en même temps, Marseille,
cinéma,
pardon, mais sur le papier, le casting, il était béton armé, quoi.
Oui.
C'est juste la façon dont tout ça a
ouais,
été
mais
tourné.
Ils jouent tous très mal, donc, du voilà. Coup, pour Amazon, j'ai vraiment, moi, c'est un pitch qui m'a un peu catastrophé. Mais bon.
Messieurs, vous dites, Corentin, Paul Hirsi.
Non, moi, je dis pourquoi pas. Alors, franchement, j'attends rien et je pense pas que ça sera bien, mais je me dis pourquoi pas. Et puis, en plus, il y a ce truc, c'est vrai, un peu Arte, quoi. Et ça, c'est Amazon qui peut faire ça. C'est-à-dire que elle sera diffusée sur le câble du coup en Allemagne, en même temps en France, et en plus elle parle des différences culturelles entre l'Allemagne et la France. Moi, j'aime rien que cette idée, j'aime bien, je trouve ça moderne que les gens regardent en même temps une comédie qui fasse autant rire sur la France qu'elle ne devrait faire rire sur les Allemands.
Espérons juste qu'on tombe voilà. Pas dans la grosse caricature et la blague pourrie sur 39-45
oh, par les scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis.
Je sais pas, j'espère juste que ça sera fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les cultures allemandes et françaises qui sont d'ailleurs pas aussi à des années-lumière de différence de ça.
Mais non, mais c'est ça, en fait. Moi, ça va me saouler si c'est pour faire des espèces de clichés comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Alors qu'en vrai,
les Allemands, ils auront des sandales avec des chaussettes en dessous.
Oui, voilà, des choses.
En même temps, tout le monde fout claquer de chaussettes maintenant. Donc, c'est même plus original de la part des Allemands. Il y a d'autres projets qui arrivent chez Netflix qui seront français. Osmosis, on parlait d'Arte, hein, une ancienne série numérique de chez Arte, et aussi une série sur Paris, après Marseille,
ça,
Paris.
Ça,
voilà, alors je sais pas ce qu'on. Je crois que les Marseillais n'ont pas aimé Marseille. J'espère que les Parisiens aimeront la série sur Paris, donc qui n'a pas de nom, je crois. Elle s'appelle pas Paris. Hein.
Elle a pas de nom encore, il me semble. C'est sur en fait la vie de trois Parisiennes et sur un peu un
Paris, etc. Gagne, elles étaient quatre, je crois. Voilà.
Là, c'est un peu du Sex and the City, mais en plus jeune apparemment. Elles ont plutôt la trentaine et pas la quarante ou la cinquantaine.
Mais... Il y a la rom-com qui est effectivement française, mais il y a aussi celle de Paris de Damien Chazelle qu'on attend à un moment donné, qui n'est pas française.
Et qui se passe.
Mais qui est quand même. Enfin, bon. Moi, j'attends ça, en tout cas.
Ah oui, qui sera peut-être plus dans un Paris fantasmé ou quelque chose de plus romanesque, mais...
Tout à fait, ouais.
Peut-être mieux, du coup.
Ça sera peut-être mieux. Du coup, SP, mais après tout, Osmosis, pourquoi pas, même si c'est pas très courageux de repiquer un truc qui existe déjà, mais là, pour le coup, il y a du black mirrorisme là-dedans, derrière
oui,
tout ça.
C'est ce que j'allais dire, c'est l'épisode Hang the DJ de la saison 4, qu'ils vont essayer d'en faire toute une série, quoi. Donc, bon, why not, mais j'ai peur qu'ils arrivent un peu old sur un sujet qu'on a, voilà, que les Anglais ont traité, il y a peut-être 2 ans. Je sais pas quand on va arriver à Osmosis, mais
oui, sachant que
Arte derrière, peut-être qu'effectivement ça pourra peut-être donner quelque chose d'un peu plus, enfin, de moins casse-cou que ce qu'a fait Netflix en France précédemment.
Enfin, Arte et la SF, moi j'ai toujours été déçue. Hein. Remember Trépalium.
C'était, oui, il y a toujours de l'ambition.
Il y a de l'ambition, voilà. On est d'accord, mais c'est déjà pas mal. Raté. Enfin...
C'était pas si mal. Bon, Osmosis au tout départ, du coup, c'est un truc Arte créative, pas de moyens du tout, un peu débutant, mais c'était pas si mal.
Ah non, mais j'ai pas dit que c'était mal.
On
parle de ce que peut devenir Osmosis, c'est-à-dire en termes d'originalité sur Netflix. Est-ce qu'il y a d'autres séries européennes qu'on va voir arriver sur Netflix et sur lesquelles il faudrait garder un œil, chers amis?
The Rain.
Série danoise, si je ne dis pas de bêtises.
Il y a du projet en matière de séries côté Europe du Nord. Qui pour le coup, ça va rester des séries d'Europe du Nord, donc très noires, très. Il n'y aura pas de comédie dans le dos, ça c'est sûr.
Ça aurait pourtant été une bonne idée de changer un peu. Et ça tend à nous conforter dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant, elle le fait parfois brillamment, mais Netflix fait un peu du suivisme. On peut dire que Amazon avec Dutch Leyland fait aussi un peu ce qu'a fait Netflix avec Marseille, c'est-à-dire on va essayer de vendre aux Français ce qu'ils aiment par ailleurs, quoi. C'est-à-dire ce qu'ils connaissent déjà. Moi, j'attends de ces plateformes qui sont censées être l'avenir de la télévision, enfin en tout cas l'avenir des séries télé, qu'elles nous proposent justement l'inverse de ce qu'on est censé attendre et qu'elles nous prennent à contre-pied. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Autant regarder les chaînes françaises qui font déjà des séries qu'on attend, pas au sens où on est impatient de les voir, mais au sens où on les a déjà vues.
Et si elle le fait mieux, finalement, c'est pas ça le.
Si elle fait la même chose en mieux.
En mieux.
Bah pourquoi pas, oui, bah c'est ce que The Crown, justement. Moi, je suis pour, mais ça suffira pas.
Parce que Marseille.
il faudra effectivement nous surprendre un peu plus.
Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden.
Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst.
Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.
Ceci n'était pas le premier trailer de Dutch Leyland, hein. C'était celui de Dark, qu'on se trompe pas. Assez causé, chers amis. Donnons la parole au public de l'antenne ici à Paris dans le 11e. Vous trouvez que Marseille, c'est génial. Vous espérez que Netflix fera une série au Liechtenstein. Saisissez votre micro. Bonsoir.
Bonsoir. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que Netflix, ils ont une énorme politique d'originals aux États-Unis, et notamment ils font énormément de paris sur des séries comme Lady Dynamite, qui est un ton très très particulier, qui est BoJack Horseman, qui sont des séries qui ne seraient pas forcément visibles ou qui ne seraient pas forcément prises sur des diffuseurs traditionnels. Est-ce que vous tous pensez que c'est envisageable que Netflix en Europe puisse lâcher un budget même crack pour écouter un pitch et avoir un ovni ou alors quelque chose qui ne serait vraiment pas sur un diffuseur traditionnel. Je pense à l'animation adulte, je pense à ce genre de choses.
Moi, c'est tout ce que je souhaiterais. Ça semble pas être leur stratégie pour le moment, chers amis. Vous en pensez quoi?
Alors, c'est ce qu'ils ont fait en partie avec du coup de la série d'animation Wakfu, pour ceux qui connaissent, avec Ankama, où ils ont lâché un peu d'argent pour coproduire la série. C'est vrai que pour l'instant, je pense qu'ils sont peut-être pas encore assez mature, de mon point de vue, en Europe, pour vraiment se risquer là-dedans. Aux États-Unis, le marché est ultra mûr, donc ils peuvent se permettre d'intéresser 500 000 personnes. Là, en Europe, je suis pas certain.
Qui d'autre ?
Je pense qu'il y a quand même deux éléments de réponse, c'est que on présuppose beaucoup d'intentionnalité de Netflix quand il va en France et qu'il fait Marseille. Il faut aussi se dire qu'ils ont subi la première saison, ils s'attendaient pas à ça, et on a lu ensuite après finalement la diffusion quand même que c'était un gros bordel et qu'ils ont quand même beaucoup subi une très mauvaise production nationale. Donc je pense qu'il faut pas trop estimer l'intentionnalité de Netflix quand ils font des choses. Je pense qu'ils auraient aimé que Marseille soit couillu et ce n'est pas le cas. Et ensuite, deuxième chose, c'est Blockbuster, le film qu'ils ont acheté sur un coup de tête. Il paraît que c'était parce que la meuf avait harcelé quasiment la communication de Netflix. C'est très mauvais, mais en même temps, c'est aussi comme ça que Netflix fonctionne et peut ça pourrait finalement arriver que ce soit finalement intéressant et en plus osé.
Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 49 d'un épisode des Jarrettes consacré aux séries européennes de Netflix et d'Amazon. Merci à Marion Litté de Combini, Corentin Durand de Numérama et Sylvain Trinel d'IGN. Merci aussi à Quentin à la technique ce soir et à toute l'équipe de Binge Audio, notre partenaire. Merci aussi au public de l'antenne. Merci à vous. La semaine prochaine, on débattra de l'évolution des séries de 30 minutes et du règne de la dramédie ou comédie dramatique, de Atlanta à Better Things en passant par Master of None. D'ici là, foncez sur nos comptes Facebook et Twitter, likez-les. Il s'appelle ACS et un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one?